Bienvenue sur The Thinking Gallery, le podcast qui décortique la pensée des leaders d'aujourd'hui afin d'anticiper le monde de demain. Je suis Paul Terrasson-Duvernon et je suis accompagné de mon fidèle acolyte Arthur Derderian. Vous êtes prêts? Abonnez-vous et on vous propose de plonger dès à présent dans The Thinking Gallery.
Pour resituer le contexte, le stockage moléculaire, c'est le pendant de l'électronique. L'électronique, c'est des systèmes de charge qui sont temporaires. Et le moléculaire, bah, vous le connaissez tous, vous avez commencé par ça. C'est une feuille de papier sur laquelle vous déposez des atomes de carbone, des molécules. Et donc, c'est de la matière qui est ajoutée. Et donc, stockage moléculaire, c'est pareil, c'est de la matière qui est ajoutée. Sauf que, au lieu d'en ajouter beaucoup, on en ajoute très peu. Et ça suffit à déposer de l'information.
Et on stocke quoi exactement? On peut stocker tout et n'importe quoi?
On stocke absolument toute information.
Donc en fait, c'est un disque dur sous format biologique, c'est ça?
C'est un disque dur sur un support de données qui est moléculaire, donc il peut être biologique ou non biologique. Le moléculaire, c'est beaucoup de choses différentes. Effectivement, chez BioMemory, on a décidé de se focaliser sur une molécule qui est connue et inventée par la nature, qui s'appelle l'ADN. Et l'ADN a un certain nombre de propriétés, et surtout dans la nature, il existe un certain nombre de mécanismes existants qui fonctionnent très bien, qui permettent de faire des copies, de la correction d'erreurs, de l'accès direct. Et on a choisi l'ADN parce qu'il existe tous ces mécanismes qu'on ne va pas réinventer.
C'est vrai que c'est des mécanismes qu'on connaît dans l'informatique traditionnelle. La nature fonctionne pareil, de ce que tu es en train de nous dire, c'est ça? Originellement, sur certains aspects en tout cas.
Alors c'est nous qui fonctionnons pareil que la nature, plutôt. Enfin, c'est les inventions humaines qui s'identifient toujours beaucoup à la nature. Donc oui, la nature a inventé beaucoup de choses avant qu'on arrive sur la planète.
Et pourquoi on a besoin de stocker dans de l'ADN? À quoi ça sert?
Alors, on a besoin de stocker déjà, quel que soit le support, parce qu'on produit beaucoup d'informations depuis toujours, depuis le début de l'histoire. Mais là, ça s'est accéléré ces 20 dernières années, parce qu'on a beaucoup d'applications, notamment des applications industrielles et notamment des applications médicales. Quand vous allez faire un scanner, il y a de plus en plus d'informations sur un scanner. Et quand vous laissez votre voiture autonome conduire à votre place, vous créez énormément d'informations. Le problème, c'est que ces informations, vous ne savez pas à l'avance si vous allez les utiliser, tout ou partie. Mais il faut bien les stocker, parce qu'il y a la réglementation, il y a du risque, il y a plein de choses comme ça. Le problème, c'est qu'avec les supports d'aujourd'hui, ça ne suffit plus. On arrive à un stade où on n'arrive plus à tout stocker, parce que les supports sont insuffisants, on n'arrive pas à en produire en quantité suffisante pour nourrir tous ces stockages. Et donc, on cherche des alternatives, parmi lesquelles stockage moléculaire, parce qu'il est beaucoup, beaucoup plus efficace que le stockage dit électronique, c'est-à-dire basé sur les transistors de manière pas très subtile.
Mmh. Pour quelles raisons?
En fait, le stockage moléculaire n'est pas un stockage temporaire, transitoire. Quand vous mettez des électrons dans une cellule de charge, en fait, il y a une durée de vie. En général, c'est 2 à 3 ans. Après, il commence à y avoir des dégradations et le traitement du signal est compliqué. Donc, ce qui se passe de manière très régulière dans les data centers, c'est que vos supports de stockage, disque dur, SSD, bande magnétique, bah, vous les renouvelez. Et vous les renouvelez tous les 2 à 5 ans, dépendant du support. Donc tous les 2 à 5 ans, vous prenez votre milliard de supports, milliard et demi sur la planète, vous le clonez sur un nouveau, on appelle ça la remasterisation. Et l'ancien, bah, vous ne pouvez pas le recycler parce qu'il contient des données, donc vous le mettez au feu. C'est quand même un petit peu problématique.
Ouais.
Et comme vous doublez votre quantité de données dans le monde tous les 3 ans, bah, ce milliard et demi, dans 3 ans, il fait 3 milliards, puis dans 6 ans, etc. etc. Vous avez des puissances qui s'accumulent.
Et vous, votre durée de stockage, elle dure combien de temps? Elle dure combien de temps? C'est infini?
Alors, infini, c'est pas peut-être le bon terme, mais c'est paramétrable.
Comment ça?
C'est-à-dire que le stockage moléculaire, vous pouvez faire un certain nombre de copies. Et comme vous avez une demi-vie, notamment sur l'ADN, qui est complètement maîtrisée, on sait à l'avance comment il va se dégrader, l'ADN. Bah, vous pouvez dire, bah, j'ai envie de stocker ça pour 10 ans, un siècle, 1000 ans, 1 million d'années, c'est possible. Et on a montré que, enfin, nos découvertes archéologiques ont montré qu'on pouvait retrouver des génomes complets. Donc le génome, c'est de l'ADN dans le vivant, pour la transmission d'informations des espèces, on pouvait retrouver ça plus d'un million d'années après, de manière complète. Hein.
Hyper intéressant, là on parle d'ADN. L'ADN, moi j'en ai une vague idée de ce que c'est. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce que c'est et ses propriétés ?
Oui, alors l'ADN, c'est... Alors, juste pour mettre un big warning, moi je suis un informaticien et à côté de moi j'ai un spécialiste de l'ADN et je vais donner une définition de l'ADN, donc j'invite le spécialiste
à ma droite que tu vas dire.
à me corriger si je dis une bêtise. Alors l'ADN c'est un produit de la nature qui est arrivé il y a un peu moins de 4 milliards d'années sur la planète suite à beaucoup d'itérations. La nature est très agile sur des temps plus longs, mais elle fait des itérations. Et c'est une suite d'acides nucléiques, des nucléotides en fait, qu'on va coller les uns aux autres. C'est quoi un nucléotide pour les chimistes? C'est une base azotée parmi quatre, hein, adénine, thymine, guanine, cytosine.
Le fameux ACGT, c'est ça?
Exactement. Et puis sur lequel on va mettre un sucre à 5 carbones, et puis on va y greffer un groupe phosphate. Jusque-là, je pense que j'ai raison.
Ouais.
Et donc l'ADN, vous le connaissez parce qu'on vous a parlé des chromosomes, qui sont des hélices très longues, torsadées, des hélices droites, c'est ça. Mais il en existe plein d'autres en fait. Hein. Il existe les plasmides, il existe plein de choses même qu'on n'a pas encore pu découvrir. Donc à quoi ça sert surtout? Je pense que c'est ça la question. À quoi ça sert toutes ces molécules d'ADN? Ça sert principalement à trois choses dans la nature. À stocker de l'information, à la transmettre à la descendance, et puis à l'exprimer, c'est-à-dire fabriquer des protéines pour pouvoir faire fonctionner le vivant. Et nous, chez BioMemory, on a décidé d'utiliser les deux premières caractéristiques, c'est-à-dire le stockage et la transmission, transmission chez nous on appellera plutôt la copie, pour pouvoir faire du stockage de données dans les data centers.
Alors, si on peut commencer à faire un parallèle avec l'informatique, donc tu nous parlais tout à l'heure des transistors, dans lesquels, donc en dessous de différentes couches logicielles, on vient stocker des 0 ou des 1. C'est quoi la différence, là, avec votre technologie dans l'ADN? Comment on encode cette donnée, concrètement?
Quand on me demande la différence, j'adore projeter les personnes sur ce qu'est aujourd'hui une information sur un disque dur ou dans un SSD ou une bande magnétique. C'est... En gros, un million d'atomes pour une unité d'information, un 0 ou un 1. Ouais. Pareil, je fais ça très macro, c'est beaucoup plus subtil, mais c'est à peu près ça. Sur l'ADN, une base, on peut y mettre une information, un 0 ou un 1, c'est 50 atomes. Un dur, bon, un million d'atomes, 50 atomes, c'est pas mal en ratio, mais non, c'est pas là le ratio. Aujourd'hui, en électronique, c'est sur des surfaces planes, le 1 million d'atomes. L'ADN, c'est en 3D. Donc là, vous avez une idée de la différence. On est sur un ratio 1 à 10 millions, voire plus.
Ça, vu que c'est en 3D, ça prend plus de place pour le stockage. On reviendra là-dessus après, mais...
Toutes les données du monde, si je veux les ranger, je les range dans tous les data centers, à peu près 10 millions de data centers. Je colle les data centers les uns aux autres. On est à peu près sur deux fois la surface de Paris.
Moi, je m'étais arrêté à une fois la surface de Paris.
Oh, ça augmente hein, tous les mois. Et... Si je prends l'ADN, on arrive à faire rentrer à peu près, de manière théorique, un zeta-octet, donc un milliard de teraoctets dans un gramme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui je sais qu'il y a à peu près 100 zeta-octets de données dans le monde, je peux faire rentrer tout cet ADN dans l'équivalent d'un sneakers.
Okay. C'est pas mal.
Bon, là c'est la théorie. Après, dans la pratique, si je veux la redondance, si je veux pouvoir y accéder, on sera sur la taille d'une petite fourgonnette.
Ok,
c'est quand même plus petit que Paris.
C'est quand même plus petit que Paris.
Wow, ok. Et du coup, comment on vient encoder cette information?
Alors, il y a trois étapes. On parle d'encodage. C'est vrai que l'encodage, c'est la première étape. Ouais. Mais si on veut stocker l'information et la préserver, il y a trois étapes. La première étape, effectivement, c'est un encodage. C'est des maths. C'est de l'algorithmie, c'est de l'informatique. On va transformer quelque chose qui est disponible sous forme de 0 et de 1, nos fichiers informatiques qu'on connaît depuis très longtemps, en une suite d'informations qui est codée sur quatre lettres. Donc, base 2 vers base 4, pour ceux qui se rappellent de leur maths de début de prépa. Et vous savez qu'il y a beaucoup de possibilités pour passer de base 2 à base 4, mais là, n'est pas la question. C'est une étape relativement facile par rapport au reste. Pas complètement triviale, mais facile. Deuxième étape, je vais polymériser, je vais fabriquer mon ADN. Et donc, je vais passer de cette information 4 lettres en une vraie molécule qui existe, qui a sa contenance. Alors, je peux utiliser des propriétés chimiques ou de biologie de synthèse, et j'ai ma molécule. Et après, ma molécule, c'est très bien, mais je ne vais pas la laisser sur la table comme ça toute seule. Je vais la mettre dans un support. Et ce support, on appelle ça un support de préservation, et j'ai plein de possibilités pour le faire. Les trois façons les plus utilisées aujourd'hui, c'est dans un liquide, mais c'est pas très, c'est assez fragile dans un liquide. Il y a les papiers FTA, donc c'est les papiers sans solvant. Et là, on est sur plutôt plusieurs dizaines d'années. Et puis, on a des systèmes beaucoup plus techniques et robustes, notamment des microcapsules dans lesquelles on dépose notre ADN dessiqué, c'est-à-dire on va lui retirer l'eau. Et puis on va fermer ça, on va enlever l'air et on va protéger donc l'ADN de la lumière. Et là, on est sur des durées de vie très 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 importantes.
Wow.
Ça t'impressionne un peu ?
Bah ouais, honnêtement, je trouve ça vraiment passionnant.
Et j'ai envie de dire pourquoi on le fait pas encore ? Pourquoi aujourd'hui on utilise encore des disques durs, des SSD si il y a un tel j'ai envie de dire edge à utiliser ça quoi, cette capacité de stockage.
Je pense que on a des solutions qui ont fonctionné jusqu'à présent et les pays riches ont été capables de se les payer, donc pourquoi pas continuer, hein, on est sur une tendance qui a fonctionné. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un problème. Les pays les plus pauvres peuvent plus se payer de l'accès à la donnée. Si vous regardez bien la donnée professionnelle, elle coûte pas de moins en moins cher chaque année depuis quelques années. Bien au contraire. Par ailleurs, il y a quand même des challenges pour le stockage moléculaire. Donc, il en existe des tonnes, des stockages moléculaires. Celui qui est le plus financé, c'est l'ADN. C'est à peu près 95% des financements, voire un peu plus. Et le plus gros challenge dans le domaine, en tant qu'informaticien, je vais vous le dire, c'est une intégration, un système intégré end-to-end disponible en data center. Aujourd'hui, personne n'a su fabriquer un système facilement utilisable en data center. Facilement utilisable, ça signifie quoi ? Ben, j'ai un rack, hein, je vais le déposer dans mon data center. J'ai pas des biologistes en blouse blanche, j'ai des techniciens de d'infocentre. Ouais. Et ces gens-là savent connecter des machines électroniques, mais pas spécialement faire fonctionner des laboratoires de biologie moléculaire. Donc, il faut leur livrer quelque chose qui ressemble à ce qu'ils ont l'habitude d'utiliser tous les jours. C'est ça le challenge.
Aujourd'hui, je ne peux pas stocker toutes mes datas dans de l'ADN comme je stocke dans iCloud.
Alors si la question c'est quand est-ce que ce type de stockage sera disponible pour les particuliers, je ne suis pas devin. Évidemment, j'ai très envie que ça se fasse comme ça. Ça passera d'abord par une étape professionnelle. Ça passera d'abord par les grands professionnels du stockage, c'est-à-dire les data centers.
Et donc, dans combien de temps, OWH pourra faire appel à toi, pourra utiliser ta techno?
Donc OVH, hein, c'est ça?
OVH, oui. Là, je suis un peu. Alors ça, ce matin, un peu compliqué.
Ça tombe bien, en fait. J'imagine que tu poses la question parce que notre investisseur historique, c'est Octave Klaba, le fondateur et actuellement président d'OVH. On a vendu notre premier prototype, qui n'est pas encore fabriqué, pas fini de fabriquer, à un groupe industriel. Il sera disponible en 2026. Donc on livrera un prototype en 2026. J'annonce que ce prototype fonctionnera très mal. Il y aura encore beaucoup de défauts, et il y aura encore besoin de beaucoup de support et d'itération. Nous, on projette 2030 pour un matériel assez solide et sérieux pour faire du stockage à peu près de l'ordre de l'hexaoctet à l'année. Par unité.
Et on n'aura plus de petits bonhommes en blouse blanche viendront jouer avec de l'ADN. Tout sera fait de manière automatique.
Oui, ce sera une black box. Hein.
Okay.
C'est comme si je vous disais, on va jouer avec le support ferromagnétique des disques durs. Je pense que personne n'y pense. Personne ne sait comment fonctionne un disque dur, à part les spécialistes, les ultra spécialistes. Mais si vous rentrez dans un disque dur, il y a plein de choses analogiques, il y a plein de traitements du signal, il y a plein d'écritures-lectures, vous ne voyez pas. Pour vous, un disque dur, il y a des 0 et des 1, ça lit, ça écrit, ça se fait tout seul. Alors, on va faire la même chose pour l'ADN.
Et on en est où, ça ?
On en est où ? On en est sur trois éléments de challenge qui, donc, aujourd'hui, déconnent. Hein. C'est la parfaite intégration, c'est toutes les couches technologiques pour que ça fonctionne de manière autonome. Donc, ça, c'est notre principal travail chez Biomemory. Deuxième challenge, augmenter les vitesses. Par vitesse, c'est lecture, écriture, latence. Donc, accès au premier octet, combien de temps ça met. Troisième challenge, c'est un challenge important, mais c'est que le troisième dans l'ordre de priorité, c'est le prix. Aujourd'hui, le prix, si vous allez faire on n'est pas les seuls à faire à proposer du stockage sur ADN, mais si vous allez voir les grands faiseurs américains, ils sont à peu près à 5 000 $ du mégaoctet. Nous, on a réussi, là, on est sur une tendance à peu près 1 $ du méga.
Ok.
En interne. Après,
et est-ce que ça va arriver à devenir compétitif ou pas?
Ça sera compétitif, de mon point de vue, pour certains clients quand on descendra en dessous du 100 $ du Tera. Ça sera pour des clients très spécifiques. Je pense notamment aux administrations proches de la défense qui ont besoin de faire, par exemple, de stocker des informations liées aux essais nucléaires. Là, il n'y a aucun problème pour eux pour dépenser une centaine de dollars par Tera. Aucun souci, voire plus. Si on se dirige vers plutôt des choses pas très, où on n'a pas envie de dépenser beaucoup d'argent, stockage froid, data center de base, on parle pas de données de santé, on parle pas de recherche industrielle très spécifique, il faudrait être à peu près 10 fois moins cher que les bandes magnétiques. L'histoire nous montre que pour un changement technologique, il faut être 10 fois moins cher que la technologie d'avant. Donc être entre 1 et 2 $ du teraoctet pour un total cost of ownership, le TCO, fameux TCO, sur 10 ans.
Ça, t'y crois? C'est possible. Tu vas arriver à faire suffisamment avoir un effet d'échelle suffisamment important pour arriver à ce prix-ci?
L'idée pour moi, en tant qu'entrepreneur, c'est pas d'y croire. Ça, c'est le client qui va croire ce que je lui dis. L'idée pour moi, c'est de faire. Ouais. Le reste m'intéresse pas vraiment.
Et tu vas y arriver?
Oui, évidemment.
J'ai pas le choix, donc je vais y arriver, c'est ça?
Non, c'est pas que j'ai pas le choix, c'est que ma vision de l'entrepreneuriat, c'est apporter une solution. Il n'y a pas vraiment d'option pour rater le coup. Enfin,
Est-ce que il y a d'autres limites au stockage de l'ADN, au stockage dans l'ADN, que aujourd'hui des limites techniques qu'on a déjà citées?
Oui, il y a de nombreuses limites. Je vais en citer deux. La toute première pour moi, c'est le financement. Si on voulait vraiment changer les choses plus rapidement que nous ce qu'on propose 2030, 2030 c'est loin, mais c'est parce que il faut graduellement financer ce type d'avancée, de la recherche au développement, du développement à la distribution. Aujourd'hui, j'estime que si on veut parfaitement amener sur le marché ce type de technologie, c'est une dépense de 1 à 5 milliards. Donc la limite financière, alors moi je suis optimiste par rapport à ça, parce que il y a une alliance qui s'est montée, une alliance sur le stockage sur ADN, qui a été notamment co-créée par Microsoft, donc des gens un peu sérieux. Donc ils y croient, ils ont même préparé un fonds d'1 milliard pour supporter ces recherches et le rachat de technologies et de start-up. Et je pense qu'ils vont quintupler, voire plus ce fonds, donc ça avance bien. La deuxième limite est une limite que j'appelle éthique. Pourquoi? Parce que quand on dit ADN au grand public, on pense vivant. Alors l'ADN, c'est tout sauf vivant, c'est une molécule, hein, c'est un polymère, comme on pourrait parler d'un polymère de plastique. Le problème, c'est qu'avec une certaine configuration, dans la nature, ça peut s'exprimer. Donc pour moi, il est très important, un, de faire le travail d'expliquer au grand public que non, l'ADN ne s'exprime pas dans tous les cas, et un travail professionnel, donc avec les acteurs du stockage sur ADN, de respecter un certain nombre de règles, parmi lesquelles que l'ADN doit être travaillé, bloqué, avec nos connaissances en biologie moléculaire, pour qu'il ne s'exprime jamais. Alors nous, on a fait le travail, et par design, notre ADN ne peut absolument pas s'exprimer. J'imagine que j'aurais des questions sur ce sujet, parce que c'est pas un sujet facile.
Comment il peut s'exprimer l'ADN?
L'ADN s'exprime dans la nature par quand tu le mets dans une cellule, ton ADN il va d'abord être transcrit en une autre molécule dont on a beaucoup entendu parler, qui s'appelle l'ARN, précisément l'ARN messager. C'est une copie miroir en fait d'un des deux brins d'ADN. Et ensuite, l'ARN va être traduit en protéines. Okay. Donc c'est une suite d'acides aminés. Et ces protéines, en fait, c'est un peu les moteurs dans le corps des espèces, qu'elles soient végétales, animales ou autres. Et l'objectif, c'est évidemment d'éviter d'apparition d'ARN messager et surtout de protéines. Dans la nature, il y a des mécanismes pour reconnaître ces sites pour démarrer transcription et traduction. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on élimine ces sites et on rajoute des sites supplémentaires qui vont interdire ces... Pareil, dans la nature, il y a des sites où ça s'arrête. Il faut savoir où ça commence, où ça s'arrête. Donc, on enlève tous les sites où ça commence. Ça s'appelle les colons start. Et on rajoute de manière très désordonnée, mais bien calculée, des colons stop à tous les niveaux. Ce qui fait que ça peut jamais rien produire. Et si ça produit quelque chose, ça sera 1, 2, 3 acides aminés. Donc, ça ne fait pas des protéines.
Et cet ADN, c'est donc vous le synthétisez ou vous allez le récupérer en fait dans le vivant par exemple ou des choses qu'on connaît déjà?
Ah non, on va pas le récupérer dans le vivant. Il y en a qui font ça. Moi, je pense que c'est pas efficace déjà.
Ouais.
Ensuite, on n'a pas spécialement envie de travailler beaucoup avec le vivant.
C'est touchy quand même.
Non, mais vivant, ça peut être au niveau, enfin, par exemple, des plantes ou je ne sais pas. Mais...
Oui, on peut utiliser beaucoup de choses qui sont absolument maîtrisées depuis des dizaines d'années en laboratoire. Mais nous, on aime bien vraiment faire ça cell-free. Cell-free, ça veut dire sans le vivant. Donc, on a des mécanismes dans le vivant connus. Bon, on comprend les mécanismes, on les réutilise, mais en dehors de la cellule.
D'accord.
Voilà, donc, ça peut pas faire des choses, ça peut pas créer des virus, ça peut pas créer des toxines, des neurotoxines, toutes ces choses-là. On est vigilant sur ces sujets. Pourquoi ? Parce qu'on sait que, bon, nous, dans l'entreprise, on a des gens sérieux, on a des gens qui respectent beaucoup l'éthique. On ne sait jamais, il peut y avoir des gens qui n'ont pas la même éthique, qui ont envie de faire du mal à notre civilisation. On se dit que si jamais on avait nos machines qui étaient dérobées ou quoi que ce soit d'autre, ou nos process, qu'on puisse rien en faire.
Est-ce que, je vais te poser une question très 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 naïve, surtout tu vas me dire, mais c'est quoi cette question?
Mais c'est quoi cette question?
Est-ce que demain tu peux générer de l'ADN, le mettre dans mon corps et faire en sorte que je récupère toute la data qu'il y a dans ton ADN, où ça me permettrait d'apprendre, d'avoir des infos d'une manière différente?
Alors, je vais répondre en deux temps. Premier, c'est que j'ai pas envie de le faire et nous on le fera pas.
Ouais.
Mais on peut le faire. Pourquoi? Parce que notre ADN, il a une propriété. C'est une propriété que je suis pas très sûr, mais je crois qu'on en a, on a inventé le nom, mais après ça doit exister par ailleurs. Ouais. On appelle ça biocompatible.
Ça te parle, Glenn? Tu peux parler. Hein.
C'est-à-dire que, à la manière de, je te livre un document écrit en mandarin.
Ouais.
Tu parles le mandarin?
Non.
Donc tu vas pas le comprendre.
Attends, je parle le mandarin? Si, je sais dire bonjour et au revoir en mandarin.
Alors je vais te le livrer dans cantonais.
Ok.
Je te livre ça en cantonais. Donc tu vas être capable de peut-être copier le cantonais, ouais, en reproduisant les lettres.
Ouais.
Mais tu sauras pas l'interpréter.
Ouais.
Donc nous, on est capable de faire ça. On est capable de livrer à une espèce végétale, à un prokaryote, par exemple. Ça, c'est les cellules sans noyau. Escherichia coli, par exemple. C'est ce qu'on utilise couramment en laboratoire. C'est pas ce que vous trouvez dans les hôpitaux. Hein. Ce qu'on trouve en laboratoire, on travaille avec ça pour faire plein d'expériences. Et je peux lui livrer, Escherichia coli, notre ADN, et va être capable de le copier plein de fois, juste en lui donnant un petit peu de sucre. Et ça, c'est génial. Donc, c'est possible, mais t'en feras rien à part de la copie.
Mais je pourrais l'interpréter avec mon cerveau?
Non.
Ok, ça je peux pas?
Non.
Ok, et je peux stocker de l'info dans mon corps sans que ça modifie mon métabolisme? Peux devenir un disque dur à moi tout seul?
Ouais, techniquement tu l'es déjà.
Ouais, oui.
Techniquement tu portes déjà plusieurs étaoctets de données. Hein.
Ouais.
Juste avec l'ADN que t'as dans
ça,
ton
totalement.
Corps. Ouais.
Mais est-ce que je peux l'éditer?
Je crois que t'as une quarantaine de grammes d'ADN sur toi.
Je sais pas.
Glenn, t'as une idée? Quarantaine, cinquantaine de grammes.
J'ai pas les chiffres. Hein.
Ouais, on va dire que t'as 40-50 hectares. Je dis ça, ouais. Je me trompe un peu peut-être, mais t'as à peu près, on va dire une dizaine d'humains. Tu peux mettre toutes les données du monde. Okay. Tu portes déjà en eux toutes les données du monde. Par contre, c'est des données qui s'expriment. Nous, on n'aime pas trop jouer avec les animaux, les végétaux. Ça, on n'aime pas trop ça. C'est pas notre. Mais est-ce que techniquement c'est possible? Oui, beaucoup de choses sont possibles. Hein. Je peux aussi faire plein de choses dans la rue qui sont complètement interdites, mais possibles, mais j'ai pas envie de les faire.
Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme préférée. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et surtout, si l'épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'hésitez plus et partagez-le lui tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. À très vite.